réclame du temps et on ne me l'accorde pas, je serai licencié au 15 septembre et je pleure tous les jours.
Des milliers de personnes ont défilé dans toute la France pour dire non au pass sanitaire. À Paris, trois rassemblements et un même mot d'ordre, faire plier le gouvernement. Et premier coup de théâtre ce soir, le Sénat vient de voter contre le pass sanitaire pour les mineurs et contre l'obligation de le présenter pour s'asseoir à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Les sénateurs qui adoptent un amendement pour repousser sa mise en œuvre au 15 septembre dans tous les lieux recevant du public. Pendant ce temps, la course aux injections et aux tests PCR continue. File d'attente devant les labos ou les centres de vaccination, mais déjà des réseaux de contrefaçon s'organisent. À Grenoble, une employée a été mise en examen pour avoir vendu de faux certificats de vaccination. La France en vacances, nouveau week-end chargé sur les routes, près de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Et pour ceux qui sont enfin arrivés à destination, la délivrance. Reportage à l'île de Ré. À Budapest, la marche des fiertés contre le gouvernement taxé d'homophobie. Le Premier ministre Viktor Orban promet d'organiser un référendum sur sa très controversée loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Le phare de Cordouan, officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, première médaille pour la France au JO de Tokyo, le judoka Luka Mekidze décroche le bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Pendant les vacances, les manifestations continuent. Le pass sanitaire agglomère contre lui les opposants à la vaccination obligatoire et les défenseurs des libertés. On a défilé dans une centaine de villes. À Paris, trois cortèges distincts et l'heure est à la dispersion. Océane Théard, vous les avez suivis pour nous.
Oui, en effet, plusieurs groupes éparpillés dans les rues de Paris, des cortèges et des slogans pour revendiquer la liberté de ne pas se faire vacciner. Des mots qu'on pouvait lire jusque sur les pancartes, « Mon corps, mes choix, mes libertés ». Dans les rangs, on ne trouve pas que des anti-vaccins. Rémi, par exemple, est soignant en Bourgogne, son gilet jaune sur le dos. Il ne s'oppose pas à l'idée de se faire vacciner, mais refuse, d'après ses mots, de servir de cobaye.
Moi, en tant que soignant, je demande qu'on m'accorde du temps. Nous sommes sur des essais cliniques, c'est uniquement. On devrait avoir tous la liberté de choisir et moi personnellement je réclame du temps et on ne me l'accorde pas, je serai licencié au 15 septembre et je pleure tous les jours.
Les manifestants dénoncent surtout une restriction des libertés avec la mise en place du pass sanitaire. Arsène est étudiant à Paris, il a reçu ses deux doses de vaccin.
Je me suis fait vacciner parce que je le voulais, je suis très content de l'avoir fait librement, mais pas au prix d'une restriction de liberté si forte. Même si on s'est fait vacciner, on n'est pas vraiment dans un pays libre quand on doit montrer un pass sanitaire pour aller prendre un café.
Et Christophe, au moment où l'on parle, des dizaines de manifestants ont réussi à atteindre les Champs-Élysées en déjouant le dispositif policier. Ils se sont notamment rendus près de l'Arc de Triomphe où la circulation est toujours en partie bloquée. Quelques heures sont toujours en cours avec des manifestants qui jouent au chat et à la souris avec la police qui cherche à disperser les manifestants au moyen de gaz lacrymogène.
Océane Théard, les opposants qui voulaient faire pression sur le gouvernement. Mais ce soir, la première inflexion vient du Sénat où le texte est actuellement discuté. Les sénateurs votent contre le pass sanitaire pour les mineurs et contre l'obligation de le présenter pour s'asseoir à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Quant à son entrée en application dans les lieux recevant du public, les sénateurs ont voté son report au 15 septembre. En attendant, les Français font comme si et tentent de se faire vacciner ou de passer un test PCR. Il n'était pas rare de croiser des files d'attente devant les laboratoires ce matin. Et puis, il y a ceux qui sont prêts à tout pour obtenir de faux certificats. À Grenoble, une employée d'un centre de vaccination vient d'être mise en examen, Marion Dubreuil.
Oui, car cette jeune femme occupe un poste stratégique dans le plus grand centre de vaccination de Grenoble, 4700 injections par jour. Elle enregistre les patients à l'entrée et elle gère l'extraction de l'attestation de vaccination à la sortie. Son comportement avait attiré l'attention d'un superviseur qui avait repéré plusieurs certificats dans son sac. Un autre témoin avait vu sur son téléphone portable des photos de cartes vitales. Les enquêteurs ont retrouvé une liste manuscrite de numéros de sécurité sociale et des noms barrés. Après avoir nié les faits pendant ses 48 heures de garde à vue, elle a finalement avoué face au juge d'instruction. Elle a reconnu avoir réalisé une douzaine de fausses attestations et s'être fait parfois rémunérer. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices ainsi que les clients de ce trafic.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Quant aux lieux déjà soumis au pass sanitaire, comme les cinémas, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. La fréquentation s'est effondrée de 70% mercredi, date qui marquait l'entrée en vigueur du pass. Les professionnels appelle l'État à l'aide. À Nice, le maire Christian Estrosi décide de revenir sur ses pas. Les enfants n'auront pas besoin d'un pass sanitaire pour fréquenter les centres de loisirs de la ville. À la place, il leur propose de passer des tests salivaires. La route des vacances était bien encombrée. 1000 km de bouchons enregistrés à midi, journée classée rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Il a donc fallu patienter plusieurs heures avant de rejoindre sa destination. À Île-de-Ré, où vous êtes, Laura Taouchanoff, c'est déjà le cas. Ils sont enfin arrivés. Ils, ce sont les vacanciers.
Le voyage s'est bien passé ?
Après toute une nuit sur la route, il était temps d'arriver pour cette famille belge. Ils ont choisi une maison rétaise typique, façade blanche, volet vert. Bertrand, vous avez voyagé longtemps, là vous êtes fatigué ?
Ça va.
C'est madame qui a conduit ?
Non, j'ai pris le volant et j'ai laissé le volant à Tours.
C'est sympa la grande cuisine comme ça.
Oui. Un petit pinot des Charentes.
C'est gentil, merci.
Voilà, le petit savon de l'Île-de-Ré également.
Elle est trop belle, vraiment.
Et oui, c'est tout en bois, c'est joli. Hein.
Vous allez être bien là.
Oui, on va être très très bien. C'est la teuf, hein. Nos enfants grandissent et on a institué le principe d'avoir une semaine ensemble, si vous voulez. Ouais. Tant que faire se peut, et pour l'instant ça peut. Même si on a une jeune ado, mais elle est contente, je pense.
Je suis allée aux États-Unis pendant un an, et du coup là je reviens, donc je suis vraiment contente de partir parce que ça faisait 10 mois que j'avais pas vu mes parents. On va faire du vélo, on va aller à la plage, il va faire beau, non j'ai trop hâte.
Il y a énorme araignée.
Ah oui, il y en a beaucoup. Oui.
Ah mais pourquoi tu la tues ?
Est-ce que vous avez passé une année difficile avec ce Covid ? Est-ce que vous avez besoin de souffler là ?
Fatigué, on l'est, on sait pas quand ça s'arrête, ça recommence à chaque fois, et c'est en effet un peu particulier.
Oui, il était temps d'arriver, d'être en vacances.
Oui, tout à fait.
Bah, bonne vacances.
Merci.
C'est l'heure pour cette famille de défaire les valises et de profiter enfin de la tranquillité de l'île. Saint-Martin-de-Ré, Laura Taouchanov, Europe 1.
À Budapest, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour défendre les droits des homosexuels. Une marche des fiertés qui espère faire pression sur le gouvernement hongrois. Son premier ministre Viktor Orban n'en démord pas. La loi interdisant les représentations homosexuelles sera soumise à référendum. C'est un monument qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains d'entre vous le connaissent et l'ont peut-être même déjà approché. Le phare de Corduan est d'ailleurs le dernier phare habité de France. Une vigie de pierre blanche qui balise l'entrée de l'estuaire de la Gironde face à Royan. C'est une fierté pour Pascal Calgo, présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde.
C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de satisfaction aussi. C'est vraiment tout le bonheur d'avoir maintenant ce monument aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial. Il a été réalisé dans l'esprit de succéder au phare d'Alexandrie. En tout cas, quand Henri IV l'a décidé, c'était dans cet objectif-là, appartenir aux merveilles du monde. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance à l'UNESCO, quelque part, la volonté d'Henri IV est aujourd'hui satisfaite. C'est le seul phare au monde maintenant de pleine mer qui est gardé. C'est le seul phare au monde qui a été construit comme un monument historique, comme un château royal. C'est aussi un phare où il y a toujours eu des découvertes, puisque la lentille de Fresnel a été inventée dans ce phare. Il a toujours été un symbole politique, historique, architectural et maritime. Il guide encore les bateaux, on fait des résidences d'artistes, il a une pleine vie et c'est ça, c'est pas seulement un monument qui a été construit il y a 400 ans. C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il fonctionne, il a toute sa légitimité, et ça, c'est assez formidable. Et donc, cette inscription va pérenniser toute cette animation autour de Corduan.
Cette consécration aussi, ça va aider peut-être pour sa conservation.
Ça va aider à sa renommée, ça va aider à sa préservation. On a un joyau comme le phare de Corduan. D'être inscrit au patrimoine mondial, ça va certainement ouvrir les yeux à un certain nombre de personnes qui ne le voyaient pas comme un monument qui va maintenant illuminer les deux rives du monde, quoi, hein. Donc, je pense qu'il y aura une fierté territoriale à l'issue de cette inscription à l'UNESCO et j'en suis ravie. Là, je vois ça crépite au niveau des mails et de Facebook. Donc, c'est aussi tout un territoire, que ce soit la rive droite ou la rive gauche de l'estuaire, qui est fier de cette reconnaissance. Donc là, je suis sûre qu'il y a du champagne qui va couler ce soir.
Voilà, le phare de Corduan inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pascal Gau, présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde. Elle répondait à Caroline Baudry. Les Jeux Olympiques, une première médaille pour la France. Le judoka Luca Mekedze décroche le bronze en judo, catégorie des moins de 60 kilos. Un beau clin d'œil à la nation France, Simon Rubin, parce que franchement, le parcours de cet athlète fut tout sauf simple.
Eh oui, Luca Mekedze, c'est l'histoire d'un gamin géorgien qui monte sur les tatamis très jeune, hein, vers l'âge de 5 ans. La Géorgie, pays de judo et de lutte, hein, où là-bas l'apprentissage se fait à marche forcée. Alors il progresse vite, très vite, mais sa passion et toute sa vie sont balayées par la guerre qui éclate 2008, deuxième guerre d'Ossétie du Sud. Alors Luca Meredze doit quitter son pays après quelques mois en Pologne. Il arrive en France en tant que réfugié politique. Il s'établit en Normandie avec sa famille, retrouve la pratique du judo. Alors forcément, pendant son combat aujourd'hui pour la médaille de bronze, il a eu une pensée très forte pour la Géorgie, pour ses parents et pour cette autre vie qu'il a laissée aux confins de l'Europe.
Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, continuer, pas lâcher, c'est aussi mon parcours, la famille que j'ai dû laisser en Géorgie. C'est aussi pour eux que je me bats et pour moi aussi, bien sûr.
Et puis Luca Meredze, c'est aussi un sportif Covid qui n'aurait sans doute pas été qualifié pour les Jeux en 2020 et qui a bénéficié du report d'un an de la compétition. Car ce n'est qu'avec son titre de vice-champion d'Europe en avril dernier qu'il a obtenu sa qualification pour Tokyo.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, donc première médaille de bronze pour Luca Meredze. Et on vous retrouve bien sûr à 18h50 pour les résultats complets dans le journal des Jeux, Simon. Le football, c'est la reprise pour la Ligue 2 déjà, première journée et premier match cet après-midi. Le SC Bastia et Nîmes ont fait match nul, un but partout. En tennis, Arnaud Clément n'est plus le vice-président de la Fédération française. L'ancien capitaine de Coupe Davis dit vouloir prévenir tout conflit d'intérêts entre ses fonctions au sein de l'instance et ses emplois externes. On va voir ce que nous réserve le ciel pour le prochain jour.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Laurent Cabrol, si j'ai bien compris, c'est une météo pluvieuse qui s'annonce ?
Bah oui, le temps a changé, vous l'avez constaté, chers amis, et demain, il en sera ainsi. Il en sera de même, oui, avec des régions plus ou moins arrosées. Un peu plus arrosées, le Nord, la Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, région parisienne, Normandie, Centre et Bourgogne. Nous aurons à la fois des averses et des orages. Un peu plus salutaire sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin, où les averses seront plus espacées. Un temps... Bon, allez, d'alternance, nuages éclaircis à égalité sur l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Vous voyez que j'essaie de mettre des nuances un petit peu dans les zones de pluie, mais enfin toutes les régions que je viens de citer seront sous un ciel le plus souvent menaçant. Dans le sud-ouest, il ne pleuvra pas ou très peu, et près de la Méditerranée, il sera voilé notre ciel. Les températures maximales pour demain, dimanche, 21 à Caen, pas plus, hein, 22 à La Rochelle, 23 à Lille et à Paris. Oui, 24 à Rennes, pas plus de 25 à Dijon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Strasbourg. Et puis, des températures un peu plus estivales. Lyon, 29, 32 à Marseille et 33, 34 vers Nîmes et Avignon.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Soir, Christophe Lamarre.
Et l'invité d'Europe Soir, c'est toujours la même chose avec les Jeux. On se promet qu'on ne se laissera pas piéger, que les comptes seront tenus et que la facture n'explosera pas. Athènes en 2004, Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016. À chaque fois, le budget s'est envolé. Tokyo n'échappe pas à cette loi et c'est un nouveau record. 15 milliards de dollars au moins. Et les Jeux les plus chers de l'histoire. Bonsoir Vincent Chaudel.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business. Déjà, est-ce que l'on peut avoir votre sentiment sur ces Jeux pratiquement sans spectateurs, en tout cas sans spectateurs étrangers? C'est tout de même une première dans l'histoire et c'est quand même une curieuse première, hein.
Oui, c'est même une triste première pour les amoureux de sport, mais en même temps, je pense qu'on peut s'en réjouir pour les sportifs eux-mêmes, parce que dans une carrière, on n'est jamais sûr de pouvoir aller au jeu ou de pouvoir y retourner. Et si ces jeux n'avaient pas existé, même avec un an de décalage, pour certains, le rêve olympique aurait complètement été... perdu. Et puis c'est tout le mouvement sportif qui a failli, qui a vacillé, parce que si ces Jeux ne s'étaient pas produits, qu'en serait-il des contrats avec les médias et les sponsors, et toute la pyramide, parce que derrière le CIO il y a un mécanisme de redistribution et puis d'exposition. Il y a des sports que l'on ne voit quasiment pas médiatiquement pendant 4 ans et qui auraient eu un trou, qui serait resté dans un tunnel pendant 8 ans. C'est le monde avec le Covid, les Jeux avec le Covid, c'est moins bien que sans, bien évidemment. Mais ça reste des Jeux quand même. On va avoir des frissons pour nos athlètes.
Il y a eu à un moment donné la rumeur ou peut-être l'idée qu'on pouvait à nouveau... décaler les Jeux de Tokyo d'un an. Est-ce que, selon vous, cela aurait été souhaitable ou réalisable en tout cas ?
Souhaitable et réalisable, je ne pense pas. Déjà, le report d'un an, c'est déjà en soi un petit miracle, entre guillemets, parce que les calendriers sportifs sont tellement imbriqués les uns dans les autres qu'on voit bien les difficultés. Par exemple, les années impaires sont des années désormais de Coupe du Monde féminine de football. Et décaler de 2 ans, c'est se mettre une Coupe du Monde en face de Jeux Olympiques, alors que d'habitude, ce sont les Euros qui sont en face des Jeux Olympiques. Et donc, on voit bien que tous les calendriers sont comme ça, imbriqués les uns dans les autres. Et les redécaler déjà d'un an, c'était compliqué, mais les décaler de 2 ans, ça aurait été une gageure. Et puis après, soyons un peu égoïstes 30 secondes, Paris, les prochains Jeux, c'est Paris 2024. Il y a déjà un problème pour les sponsors de Paris 2024, c'est que normalement, ils ont, en tant que sponsors de l'Olympique suivante, ils ont 4 ans pour exploiter les anneaux, et là, ils n'en ont déjà que 3.
Ça change beaucoup de choses, ça, Vincent Chaudel, parce que j'allais dire pour le grand public, ça ne parle pas forcément. On se dit après tout, un an de plus, un an de moins, qu'est-ce que ça peut leur faire ? Non, ça change beaucoup de choses, ça.
Ouais, quand on est sur des tickets de 50 ou 100 millions d'euros par an, oui, ça change beaucoup de choses.
Je veux bien le croire.
Et surtout, si vous devez payer pour ne pas pouvoir exploiter ces anneaux, oui, ça pose un vrai problème. Donc, ça pose un problème pour le sponsor qui, mécaniquement, va demander une remise, une ristourne. Et ça pose un problème, du coup, pour l'organisateur qui voit son budget être impacté. Si les JO de Tokyo seront malheureusement dans l'histoire les JO les plus chers, c'est en grande partie parce que il y a eu le report. Donc, ça veut dire que quand vous organisez des Jeux Olympiques, vous employez beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes sur la dernière année. Et donc là, le report s'est décidé en mars 2020 pour des JO qui devaient commencer en juillet. Ça veut dire que l'organisation de Tokyo 2020 était déjà quasiment en pleine puissance. Et là, vous faites quoi ? Vous renvoyez tout le monde à la maison ou vous gardez tout le monde ? Et si vous gardez tout le monde, vous avez un surcoût, bien évidemment. Et puis, vous avez un problème avec vos sponsors. Et en plus, là, pour la triple peine, vous devez vous passer de touristes, de spectateurs, donc de touristes. Juste à titre indicatif, en 2010, il y avait à peu près 9 millions de touristes à Tokyo. En 2019, il y avait 32 millions de touristes. Donc, on voit bien la montée de en puissance du tourisme grâce à la Coupe du Monde de rugby 2017 et grâce au JO 2020 et la dynamique enclenchée par rapport à ça. Malheureusement, en 2020, c'était 4 millions de touristes. Ils ont perdu 28 millions de touristes en un an.
Et justement, des Jeux sans spectateurs étrangers, donc sans touristes, en grande partie. Tokyo, placé en état d'urgence sanitaire, a même restreint les libertés d'aller et venir pour ses propres habitants, hein. Là on parle pour les Tokyoïdes, ce n'est pas très bon pour le business, ça, Vincent Chaudel, non ?
Alors c'est pas très bon pour le business, ça c'est clair, évidemment, c'est ouvrez votre supermarché et interdisez aux gens de rentrer, ça va vous poser un problème. Mais au-delà de ça, c'est pas très bon pour l'image du mouvement olympique. Déjà que aller chercher des villes candidates devenait compliqué, hein, gardons à l'esprit que Paris était tout seul et que Los Angeles était tout seul.
Rome, pardon de vous couper, Vincent Chaudel, mais Rome a refusé et Hambourg a refusé, hein, via un référendum. Et
Rome a refusé, Hambourg a refusé, Boston a refusé également.
C'est vrai aussi, oui.
Et donc, évidemment, c'est cela. Et donc, on sait déjà qu'aujourd'hui, il y a quelque part une malédiction de la ville gagnante. C'est-à-dire son budget est en général multiplié par 1,5 ou 2, mais si en plus on se met les populations à dos et qu'en plus on va vers un gouffre financier parce qu'on n'a plus de recettes, oui, ça pose un vrai problème d'image. Mais moi je crois surtout que des Jeux Olympiques ne sont pas nécessairement là pour gagner de l'argent, mais pour gagner du temps. Si je prends le cas de Paris 2024, on va accélérer la transformation du Grand Paris grâce aux JO. Sans les JO, on aurait fait ces transformations, mais peut-être en 2035 ou 2040. Donc on va gagner du temps grâce à cela. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir.
On va revenir sur le Grand Paris, mais restons à Tokyo quelques instants. Les sponsors locaux qui avaient réussi à réunir 3 milliards de dollars, hein, je parle sous bon contrôle, en un temps record, est-ce qu'ils ne sont pas les grands perdants de ces Jeux Covid ?
En fait, Tokyo, le Japon d'une façon générale, est le grand perdant de ces Jeux Covid, évidemment. Et ils le font pour sauver le soldat CIO, quelque part. Parce que l'annulation pure et simple aurait certainement coûté quelque chose comme 34 milliards de dollars au Japon. Et là, la facture est quand même de 18. c'est énorme. Mais quelque part, les sponsors japonais, on a une culture de l'orgueil et de la fierté au Japon, et je pense que c'est entre guillemets ce qui sauve ces jeux, parce que les sponsors japonais sont restés à côté et engagés autour de l'organisation de ces jeux, et tant mieux pour ces jeux qui, qu'un cas, existent. Et encore une fois, la fête, l'engagement des sportifs va être à la hauteur, et on va vivre une quinzaine, j'espère, fabuleuse, en espérant qu'on ait beaucoup de médailles françaises.
Vincent Chaudel, oui, bien sûr qu'on espère avoir beaucoup de médailles françaises, ça nous donnera un petit coin de ciel bleu chez nous. Vincent Chaudel, comment expliquez-vous, vous avez parlé très justement de la malédiction de la ville gagnante, comment expliquez-vous que la facture des Jeux s'envole systématiquement et dépasse à chaque fois les bornes qui étaient fixées au départ?
Alors, je dirais qu'il y a deux contextes. Il y a le premier contexte, avant, on était plutôt dans un poker menteur où on présentait en candidature des budgets minimisés pour expliquer au CIO qu'on ne serait pas pharaonique et donc on gagnait les jeux. Puis après, on était face à la réalité et ça augmentait. Je crois qu'aujourd'hui, le problème des jeux, si je prends le cas de Paris 2024, le budget, il est a priori maîtrisé, maîtrisable, sauf que désormais, on va avoir, on le sait depuis Londres 2012, des sujets de sécurité très importants. On a peur que ces événements servent de plateforme pour tout un tas de revendications, y compris des revendications terroristes. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, là-dessus, les coûts de sécurité ne vont cesser d'augmenter et sont difficilement anticipables. Et puis là, avec Tokyo, on se rend compte qu'il y a un sujet aussi de sanitaire qui va mécaniquement, par rapport à Paris 2024, avoir un impact à la hausse au niveau du budget. Mais si on regarde un budget, il y a deux parts de budget. Il y a la part liée à la compétition elle-même, aux infrastructures. Et là-dessus, le budget de Paris 2024 va être maîtrisé puisqu'il n'y a quasiment pas, hormis la piscine, d'équipements à construire. Donc, il y aura soit des équipements existants, soit des équipements temporaires. Et tout cela est financé en partie par les sponsors, les droits télé et les redistributions du CIO. Et puis, il y a la partie village olympique, infrastructures de transport et autres qui, ce que j'évoquais tout à l'heure, sont de nature à faire gagner du temps à la collectivité. Et c'est cela qui peut faire envoler les budgets. Si on prend l'exemple de Sotchi, qui était une région à désenclaver pour la Russie, oui, il y a eu des surcoûts, mais avec une logique moyen-long terme qui peut se justifier.
Merci Vincent Chaudel. Je rappelle que vous êtes économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci et à bientôt.
Merci.
Sur Europe 1.
À bientôt.
Dans un instant sur Europe 1, l'histoire de la révolte d'une minimis, c'est le livre de l'été de Nicolas Carreau.
Europe Soir Weekend, Christophe Lamar.
Allez, comme tous les soirs du week-end, on vous retrouve, Nicolas Carreau. Ce soir, vous nous parlez du dernier roman d'un écrivain bien connu. I knew a man,
Bojangles, and he danced for you. Vous reconnaissez, Christophe?
Oui.
Mr. Bojangles de Nina Simone, qui a donné le titre En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Énorme succès. Il en revient avec Florida, toujours chez son éditeur Finitude, qui peaufine toujours ses couvertures.
Et là, d'ailleurs, on voit une petite fille avec diadème. C'est une minimis.
C'est ça. C'est le sujet, entre autres, du livre. C'est l'histoire d'Elizabeth Verne. On est à Miami, en Floride. Sa mère, pour ses 7 ans, lui fait un cadeau magnifique, l'emmener participer à un concours de minimis. Elle, elle suit, ça ne la dérange pas plus que ça, mais elle s'attendait quand même à autre chose pour son anniversaire. Enfin, elle gagne. Sa mère décide d'en faire donc une championne de concours. Or, Elizabeth a, malgré cette première victoire, un physique de deuxième, c'est ce qu'elle dit. Et le calvaire commence. Olivier Bourdeau.
C'est un documentaire que j'ai vu il y a 7 ans qui m'a laissé un sentiment très particulier, au-delà du folklore, des mères qui poussent leurs enfants sur les estrades. Et j'ai eu du mal à mettre le doigt sur ce sentiment. Je me suis dit, quelle horreur d'être jugé uniquement sur son physique quand on est enfant. Voilà à peu près une des seules choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Voilà. Elle est jugée sur quelque chose qu'elle ne peut pas modifier. Et par conséquent, elle va nourrir le mépris d'elle-même, le mépris des jurys, des jurés, et le dégoût de sa mère. Voilà, c'est ce qui entraîne... Cette victoire est une malédiction qui va entraîner tout un tas de défaites.
Et ça ne va pas aider Elisabeth à aimer sa mère, j'imagine.
Oh non, c'est de plus en plus dur. Sa mère devient de plus en plus dingue avec cette histoire. Son père, qui se rend bien compte que ça ne va pas, ne fait rien, ne dit rien. Mais sa mère refuse de baisser les bras. Elle va tout faire, quitte à faire opérer sa fille même, dont une oreille est très, très, très légèrement décollée. Est-ce que ce ne serait pas ça ce qui l'empêche d'être première?
C'est tout le cirque de la compétition. On veut absolument à tout prix retrouver la première place. Et donc ça implique tout un tas de comportements. Là, en l'occurrence, comme Elisabeth a un physique de deuxième, il faut pousser sur certains leviers, tirer sur certains leviers. On ne peut pas changer son visage. Par conséquent, on va activer tous les artifices que sont le maquillage. Pour le coup, la pauvre Elisabeth a une oreille légèrement décollée. Donc, le problème devient l'enfant. Et donc, il faut modifier l'enfant pour qu'enfin, il revienne sur la première marche.
Elisabeth, dans cette histoire, elle ne se rebelle pas, elle ne dit rien ?
Si. En fait, les concours de Minimis, c'est la première partie, très travaillée d'ailleurs du roman. Il y a des histoires vraies d'ailleurs dans cette fiction, comme une des mères qui a fait avaler des œufs de ténia à son enfant pour qu'elle maigrisse. Ça, c'est une histoire vraie. Il y a les différents types de participants, les touristes, les amateurs, les pros. C'est à la fois drôle et terrifiant ce roman. Enfin, toujours est-il que oui, un jour, Elisabeth va se rebeller et elle va rompre avec tout ça radicalement. Je ne vous dis pas comment il faut le lire, mais disons qu'elle va utiliser son sens du spectacle. Et ensuite, c'est le roman d'une autodestruction et puis un peu d'une vengeance aussi.
Jusqu'où peut mener parfois le narcissisme et surtout
vanité.
La vanité des parents vis-à-vis de leurs propres enfants. Florida, donc, d'Olivier Bourdeau chez Finitude. Merci, Nicolas.
Merci, Christophe.
Certains lisent en musique et d'autres pas. Et tiens, si vous êtes de ceux qui aiment se laisser bercer par quelques notes, surtout ne changez rien. Sinon, vous pouvez poser votre livre quelques instants. C'est l'heure de Vanille, à part entière.
Dans quelques instants, retrouvez l'entretien de Philippe Legrand avec la compagnie de croisière Ponant. Destination d'exception, art de vivre à la française. Vivez des instants de voyage privilégiés. Plus d'infos sur ponant.com.
D'ailleurs, vous avez une alarme, vous, non ?
Oui, on a fait installer Verisure.
Et alors, c'est comment ?
Ah, super rassurant.
Oui, surtout qu'il y a beaucoup de cambriolages dans notre quartier pendant les vacances.
On devrait vraiment prendre une alarme, nous aussi, avant de partir.
Ah, t'as raison.
Rendez-vous sur verisure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure.
Europe Soir Weekend. Christophe Lamar.
18h30 sur Europe 1, l'heure du rappel de titre avec vous, Yasmina Katou.
Le judoka Lucas Mekedze délivre la France et nous offre la première médaille olympique. Ça va me prendre quelques jours pour réaliser, a déclaré le judoka, après avoir reçu sa médaille de bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos. Écoutez sa voix tremblotante juste après sa victoire.
Je suis très très heureux. Depuis que je suis tout petit, je pense, j'ai participé aux Jeux, rapporté une médaille. Et en 2020, ce n'était pas gagné pour moi. Je ne devais pas aller aux Jeux. Mais ce report m'a laissé une autre chance de me qualifier. Aujourd'hui, je suis là. Et là, je sors de mon combat. Je ne reviens pas encore que j'ai réussi à décrocher cette place des trois.
Le judoka Lucas Mekedze. Le Sénat examine aujourd'hui le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Et premier coup de théâtre, les sénateurs retoquent le pass sanitaire pour s'installer en terrasse et la mise en place du pass sanitaire pour les mineurs. L'objectif est de valider le texte avant la fin du week-end. Le gouvernement espère une application début août. Et les opposants à ce projet sont dans la rue aujourd'hui. Des tensions ont éclaté à Paris entre manifestants et forces de l'ordre. Les gendarmes ont utilisé des gaz lacrymogènes. Certains manifestants ont tiré des projectiles. Il y a eu 3 cortèges dans la capitale. Les manifestants tiennent à rappeler qu'ils ne sont pas tous anti-vaccins.
Moi, en tant que soignant, je demande qu'on m'accorde du temps. Nous sommes sur des essais cliniques. C'est uniquement... On devrait avoir tous la liberté de choisir. Et moi, personnellement, je réclame du temps. Et on ne me l'accorde pas. Je serai licencié au 15 septembre et je pleure tous les jours.
Je me suis fait vacciner parce que je le voulais. Je suis très content de l'avoir fait librement. Mais pas au prix d'une restriction de liberté si forte. Même si on s'est fait vacciner, on n'est pas vraiment dans un pays libre quand on doit montrer un pass sanitaire pour aller prendre un café.
Et vous êtes peut-être sur la route des vacances aujourd'hui. Patience, près de 1000 km de bouchons en cumulé à la mi-journée. Ce samedi est classé rouge sur les routes dans le sens des départs, orange pour les retours. Certains sont arrivés à bon port. Écoutez ces vacanciers rencontrés par Laura Taouchanoff sur l'île de Ré.
Je suis venu avec ma conjointe Julie et mon fils Elliot. On est en vacances en camping-car, donc on fait de l'itinérant. Donc là, on s'est arrêté 4 jours sur l'île de Ré. Puis on va descendre un peu plus bas, on ne sait pas trop où encore. On est obligé de se faire tester tout le temps pour avoir accès au camping, au bar, au restaurant. Mais on les accepte quand même, voilà, donc les contraintes. Donc voilà, on est content d'être en vacances quand même.
Des vacanciers ravis rencontrés sur l'île de Ré.
Yasmina Katou pour le rappel de titre. On vous retrouve bien sûr, Yasmina, à 19h pour le journal. À tout à l'heure. L'été des présidents, Europe 1 vous propose tous les week-ends de revenir sur les vacances des chefs d'État de la Ve République. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Valéry Giscard d'Estaing, un homme qui avait basé une partie de sa communication sur sa simplicité et son rapport direct avec les Français. Mais pour ses vacances, il avait fait le choix du château familial d'Auton dans le Loir-et-Cher. Et ce fut tout sauf simple, Charles Guyard.
Au centre d'un petit parc ombragé de chênes centenaires, une simple stèle gravée d'une prière en latin et d'un nom, Valéry Giscard d'Estaing. Jusque dans son repos éternel, celui qui était à la barre de la France de 74 à 81 est toujours présent au milieu des 700 habitants d'Auton, comme il l'était de son vivant.
On le croisait juste à la boulangerie et à la mairie, surtout pour les votes. Très abordable, il disait bonjour. C'était le côté justement intimiste de Auton qui lui plaisait. On était fiers de l'avoir.
Cette fierté, les Autonois l'éprouvaient chaque week-end ou lors des vacances, quand le président quittait la capitale pour rejoindre l'étoile, le vaste domaine familial côté anémone. Dans le silence du village, c'est un bourdonnement qui annonçait son arrivée.
On voyait passer l'hélicoptère en fin de semaine en général. Ça veut dire qu'il y venait à Auton ou qu'il en repartait le dimanche. C'est comme ça qu'on le déduisait qu'il était là.
En ville, c'est parfois le bruit d'un autre moteur qui signalait l'illustre présence, celle de la voiture du président que madame amenait elle-même au garage de Thierry Lenasse, qui avait alors quelques petits accros à réparer.
C'est madame qui conduisait, donc on faisait beaucoup plus de trucs de carrosserie parce que quand on rentre dans le garage, faut couper là parce que.
Vous n'avez pas appris à Anémone à faire une vidange alors.
Non.
Pendant quelques jours, Giscard se fondait donc dans le paysage, jusque dans l'église qu'il fréquentait chaque dimanche, assis juste devant Marie Bélisandre, encore émue.
Il est venu s'asseoir devant moi. Comme il était très grand, évidemment, il dépassait largement les autres paroissiens. Et là, j'ai regardé ses mains en me disant qu'elles avaient quand même serré les mains des gouvernants du monde entier et c'était assez impressionnant. Mais ce n'était pas le président de la République, c'était un paroissien.
Un simple paroissien pendant la messe, un simple client dans les commerces du coin. Ainsi, VGE arpentait les rues en toute tranquillité.
Finalement, on n'y faisait plus très attention. Ça devenait banal de rencontrer Valéry Giscard d'Estaing. Je suis sûr qu'il y a peu de personnes à Auton qui ont...
Claude Guillon, lui, était plus qu'un voisin. À force de le côtoyer, il est devenu un intime, voire même un conseiller de l'ombre en matière agricole.
Le dimanche 22h30, téléphone sonne, c'était Valéry Giscard d'Estaing, juste pour savoir comment les cultures sont comportées, le prix des céréales. Il était très intéressé par les rendements. J'ai vu des fois parler une heure avec lui d'agriculture. Il prenait acte de mes propos. Valéry Giscard d'Estaing, c'était avant tout un terrien, un chasseur, un homme de la nature.
Le chasseur Giscard, ça c'est Maxime Pasquier qui s'en souvient le mieux. L'homme était l'un des rabatteurs officiels et sait dire s'il en a vu des personnalités taquiner la bécasse.
Il y a eu le roi des Belges qui est venu, monsieur Konstantinov. Oui, il y a quelques têtes qu'on connaît.
C'est secret défense, c'est ça?
C'est presque ça.
En tout cas, dans ces parties de chasse 5 étoiles, pas question d'oxyre un sanglier à 10 mètres puis de le traîner comme un vulgaire gibier. Giscard, tireur émérite, y veillait en personne.
Une fois, il m'a dit, surtout monsieur, ne traîne pas le gibier comme ça.
Alors monsieur Giscard d'Estaing, il avait un bon coup de fusil?
Ah oui, c'est... C'était sûrement le meilleur, même.
Forcément, il joue à domicile, en plus.
Non, oui, aussi, mais quand vous le voyez faire un tir au mirador à 200 mètres, balle plein cœur, ça ne discute pas. Ils aiment les jolis coups de fusil, ces gens-là.
Aujourd'hui, un cerf majestueux en ferronnerie orne le grand portail de la propriété. Il est fermé, plus aucun gendarme ne monte la garde devant, mais au loin, on distingue une fenêtre ouverte. Anémone Giscard d'Estaing est là, toujours, comme une gardienne du temple, à quelques kilomètres de la stèle sous laquelle repose son mari, dans ce petit parc ombragé. Ouvert à tous. Auton, Charles Guyard, Europe 1.
L'été des présidents, chaque week-end sur Europe 1. Et ce soir, on mange quoi? Si vous êtes à court d'idées, Pierre Herbulot est là pour sauver votre dîner. Et le plat de l'été, cette fois, c'est la dorade minute du chef Christophe Baquet.
Un plat de partage familial qu'on pose au milieu de la table et qui sent bon le sud de la France. C'est la recette que je vous propose aujourd'hui en compagnie du chef Christophe Baquier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef 3 étoiles et meilleur ouvrier de France de l'hôtel Spa du Castelet dans le Var. Qu'est-ce qu'on fait en premier pour la recette, chef?
Donc là, on va colorer nos courgettes. Et ça se fait rapidement parce qu'en fait, on va faire une cuisson qui est assez sympa où tout va cuire en même temps. Donc dans la même poêle, on va ajouter notre dorade. Voilà. Voilà. On va la colorer. On rajoute un peu d'huile d'olive comme ça. On va la colorer de chat de face. On a laissé les deux filets avec la tête et la queue. Ça s'appelle ouvrir en portefeuille. Et donc on va l'ouvrir et l'assaisonner à l'intérieur.
Ah, comme une volaille.
Exactement. Poivre blanc, du sel fin. Et on a des feuilles de basilic, on va venir glisser comme ça. Une ou deux feuilles de basilic. Et voilà. Parlez tout ça. Mais regardez, la coloration.
Waouh, c'est splendide.
Ça fait assez rapidement.
Il est doré déjà de l'autre côté là.
Exactement. Et là l'idée, ça va être naturellement pas de cuire la dorade, mais juste de la saisir. Et là on débarrasse notre dorade.
Alors là, on fait pas la vaisselle tout de suite. Hein.
Non.
Surtout pas.
On rajoute un peu d'huile d'olive. Non, parce que vous voyez, il y a des petits suites déjà qu'on commençait à accrocher. Donc là, on rajoute un filet d'huile d'olive et on va mettre nos oignons. L'ail, haché. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle déglacer. On va déglacer au vin blanc, c'est-à-dire qu'on va venir verser du vin blanc.
Ça va décoller en fait tout ce qui s'est accroché au fond, c'est ça?
Oui, mais c'est surtout l'intérêt, c'est d'apporter de l'acidité.
Ouais.
Et maintenant, ce qui va être extrêmement important, c'est de faire réduire ce vin blanc à sec. Pour garder le parfum et plus l'alcool. Et là, on va venir ajouter des tomates. On a fait des dés de tomates.
Qu'est-ce que vous avez préparé sur le côté là?
Fumée de poisson. Alors si toutefois vous n'avez pas de fumée de poisson, sachant qu'on a dit tout à l'heure qu'on enlevait l'arête centrale, vous pouvez récupérer cette arête centrale, la couper en morceaux, la faire revenir rapidement avec de l'huile d'olive, juste un peu d'eau, cuisez ça une vingtaine de minutes, ça va vous faire déjà de l'eau, je serais tenté de vous dire, parfumée aux essences de poisson.
Bien sûr. Voilà. Et là, on vient mouiller avec, c'est ça?
Voilà. Et là, on vient rajouter du fumée de poisson. J'aime bien assaisonner avec un tout petit peu de piment d'Espelette et un petit peu de fleur de sel. Donc l'idée maintenant, c'est de cuire le poisson en même temps que la sauce. Et la sauce va se faire avec les parfums du poisson et réciproquement.
Ouais, puisque donc, tout à l'heure, on le répète, on l'a seulement coloré rapidement.
Exactement. Donc là, on va mettre notre poisson dans la sauce à tout petit feu. Voilà. Nos courgettes.
On avait saisi très rapidement tout à l'heure.
Notre poisson est cuit.
Et là, on voit que la sauce, elle commence à aussi s'homogénéiser.
Exactement.
Allez, on goûte tout de suite. On a effectivement une cuisson magnifique du poisson. Et puis surtout, on a tellement de parfums avec tous les légumes qui se sont imprégnés de la sauce et surtout la sauce qui s'est imprégnée des légumes.
Exactement.
Je sais pas quoi dire, c'est tellement bon.
Eh ben, écoutez, bonne dégustation.
Merci infiniment, merci Christophe Baquet.
Merci à vous.
Les plats de l'été avec Pierre Herbulot. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver les recettes et les photos sur europe1.fr. Dans un instant, tout autre chose, l'entretien de Philippe Legrand. A tout de suite. Bonjour Philippe Legrand.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Retour en 2019, Notre-Dame de Paris est en flammes. Bonsoir Dominique Loiseau.
Bonsoir cher Philippe.
Votre nom a fait le tour du monde, vous l'épouse du chef multi-étoilé Bernard Loiseau. Après la tragédie de sa disparition en 2003, ses initiales continuent de briller à côté des vôtres. Dominique Loiseau, vous présidez aujourd'hui le groupe Bernard Loiseau pour préserver entre autres et développer l'œuvre qui était la sienne. Vos enfants Bérangère, Blanche, Bastien qui ont grandi dans la maison de la Côte d'Or à Saulieu, votre adresse emblématique, sont eux aussi dans le métier. Peu de gens le savent, on devrait vous appeler Madame la professeure, vous qui êtes issue de l'école normale supérieure et qui avez réussi en plus le CAP de cuisine. Dominique Loiseau, l'histoire vous passionne aussi. Ce soir, vous avez choisi de revenir sur le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris est en feu. L'astronaute français Jean-Loup Chrétien en témoignait sur Europe 1.
Le choc a été violent. Notre-Dame, c'était un signe de la vie que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est assez époustouflant, c'est que l'orgue ait échappé aux flammes. Ce choc a été très, très, très fort.
On entend là Jean-Loup Chrétien qui, comme des millions de personnes, était touché par ce qui s'est passé. Ces images fortes, vous avez choisi Dominique Loiseau le 15 avril 2019. Comme lui, vous avez été aussi frappé par ces images, Dominique Loiseau.
Ah ben c'était frappant, c'était choquant même. Hein. C'est quand même le cœur de Paris qui s'écroule, qui s'effondre. Et je n'ai pas quitté mon écran de télévision parce que c'est vrai que dans mon métier, je fais un peu au niveau des horaires un peu ce que je veux. Donc j'ai pu un peu me mettre à part pour suivre un maximum les diverses étapes de cette tragédie.
Cette tragédie, 9 heures d'intervention, c'est ce qu'il a fallu pour les 400 pompiers engagés, les pompiers de Paris, 800 ans d'histoire dans les flammes, un joyau médiéval. Vous y étiez venu à plusieurs reprises aussi.
Oui, ben, j'ai habité Paris un certain temps. Bérangère, ma fille aînée, avait été à l'école juste à côté de Notre-Dame. Donc nous y sommes allés plusieurs fois. Mais on y est allé quand elle était petite. Et elle a fait brûler.
Vous avez un souvenir ?
Oui, elle a fait brûler plein de bougies. Et puis quelque chose est tombé par terre, l'allumette ou je ne sais quoi. Elle est allée ramasser ça. Et en remontant, elle a donné un gros coup dans le plateau qui portait les bougies. Donc ça lui a coulé dans les cheveux, sur les sourcils, sur les cils, enfin bon, la pauvre. Mais ça n'a pas duré longtemps, la chaleur, mais c'était assez impressionnant.
Dominique Loiseau, les compagnons sont à nouveau à pied d'œuvre pour restaurer cette cathédrale. Et les compagnons, c'est un mot important dans cet univers professionnel. D'ailleurs, vous y faites allusion dans votre nouveau livre, La revanche d'une femme, votre livre aux éditions Michel Lafon, le compagnonnage dans cet univers de la cuisine et au fond, toutes ces personnalités, ces moments que vous avez croisés, rencontrés, ces hommes, ces femmes, on les retrouve dans votre livre. Et au fond, on retrouve aussi votre moment à la ferme.
Oui, alors en ce qui concerne le compagnonnage, sachez que le très bel escalier en chêne, qui est vraiment la pièce maîtresse du bâtiment côté jardin, a été fait par des compagnons.
C'est chez vous, ça ?
Oui, oui, dans notre relais château. Dès que nous pouvons, nous faisons
la Côte d'Or
appel
à ce lieu.
Oui, dès que nous pouvons, nous faisons appel à ces personnes hautement qualifiées qui transmettent un savoir tellement précieux.
La revanche d'une femme, c'est peut-être aussi la revanche de toutes ces femmes qui vous ont accompagnées.
Oui, ça a été une grande motivation dans la rédaction de mon livre. C'est de montrer aux femmes qu'il ne faut pas toujours douter, qu'il faut y aller, qu'il faut faire ce qu'elles semblent être importantes de faire et de ne pas avoir ces hésitations qu'ont toujours les femmes. Un homme, il fonce, il ne se pose pas de questions. Mais nous, les femmes, on se pose souvent trop de questions.
Dans La revanche d'une femme, votre livre aux éditions Michel Lafon, Dominique Loiseau, Bernard Loiseau, votre mari est là, toujours là.
Il est toujours derrière mon épaule droite. J'ai cette impression.
Cette force toujours...
Oui, il est
vous
derrière moi et c'est comme s'il me soufflait des choses. Ça, il faut faire ça comme ça. Ça hein. Et puis quand je fais quelque chose de bien, je lui dis, c'est bien fait. C'est quand même bien fait. J'ai comme cela des échanges virtuels avec lui.
Les premiers pas sans Bernard, c'est aussi le titre d'un des chapitres de La revanche d'une femme. Comment avez-vous trouvé la force ?
J'ai toujours aidé Bernard. Nous formions un très bon binôme, nous étions très complémentaires. Et quand il a laissé tomber, quand il a lâché, son corps a lâché, son esprit a lâché, je me devais de continuer toute son œuvre, puisqu'on l'avait créée ensemble quand même. J'ai passé 17 ans avec lui à construire... cette belle maison, nous avons eu des enfants, il a écrit des livres que j'ai beaucoup écrit quand même, parce qu'il n'aimait pas être assis à une table et rédiger. C'était même son courrier, c'était une punition pour lui de faire son courrier. Donc je savais que dans ce domaine-là, je pouvais me rendre utile dans cette maison, parce que je ne pouvais pas être utile dans les cuisines. Bon, même si je saluais les clients voulaient voir Bernard. Donc moi j'avais besoin, comme j'ai toujours besoin de me rendre utile, donc j'avais trouvé mon rôle dans le jardin, dans les chambres, dans une maison comme la nôtre. Nous avons 32 chambres quand même. Il y a beaucoup de choses à faire.
Merci Dominique Loiseau d'être venu sur Europe 1. On a avec vous ce soir revu ces scènes, ces images du 15 avril 2019, votre date, votre choix de Notre-Dame dans les flammes. Merci aussi d'être venu nous présenter votre nouveau livre, votre livre, Cette revanche d'une femme aux éditions Michel Lafon. On se quitte avec votre choix musical. Il est dans votre playlist Cookie Dingler.
Qui est un Strasbourgeois.
Lui aussi, comme vous.
Mais oui.
À bientôt.
Merci.
Femme libérée, Cookie Dingler, tube de l'année 1984, qui à l'époque quand même s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Ça fait longtemps qu'on ne vend plus 1 million d'exemplaires. On fait peut-être parfois aussi 1 million de vues. Femme libérée, Cookie Dingler, et puis bien sûr la chronique de Philippe Legrand tous les week-ends sur Europe 1.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec Ponant. Cet été, la France est belle vue de la mer. Embarquez avec Ponant aux côtés d'invités prestigieux pour une croisière authentique et raffinée. Plus d'infos sur ponant.com.
Et quand on parle d'un événement que l'on attend aussi régulièrement, il revient tous les 4 ans. Bien sûr, on parle des Jeux Olympiques. Bonsoir Simon Rubin, c'est le journal
Bonsoir.
Des Jeux.
Bonsoir.
Bon, on commence évidemment avec une très bonne nouvelle. C'est la médaille française du jour en judo. Et c'est une médaille de bronze.
Et oui, pour Luca Meredze, 25 ans, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Lui, le natif de Géorgie, qui a fui la guerre en 2008, réfugié politique, naturalisé français en 2015. Cette médaille vient récompenser un parcours résilient.
Je suis très très heureux. Depuis que je suis tout petit, je pense, j'ai participé aux Jeux, rapporté une médaille. Et en 2020, ce n'était pas gagné pour moi. Je ne devais pas aller aux Jeux. mais ce report m'a laissé une autre chance de me qualifier. Aujourd'hui, je suis là. Et là, je sors de mon combat. Je ne reviens pas encore que j'ai réussi à décrocher cette place de 3. Et merci aux supporters, je les entendais. Et c'est ça qui faisait aussi qu'à chaque fois, je me relevais. Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, continuer, pas lâcher, c'est aussi mon parcours. La famille que j'ai dû laisser en Géorgie. Mais une fois arrivé en France, j'ai rencontré des gens. J'ai des amis, j'ai de la famille. Donc c'est aussi pour eux que je me bats. Et pour moi aussi, bien sûr.
Luca Meredze au micro de France Télévisions. Pas de chance en revanche pour Shirin Boukli dans les moins de 48 kilos. Elle n'a pas pu remporter la médaille qu'elle visait. Alors avec cette médaille de bronze, la France est ce soir 19e au classement, mais ce n'est que le début.
Et puis on rappelle que Roxana Maracineanu, invitée ce matin d'Europe 1, a fixé un objectif. 40 médailles, ce serait l'idéal. Autre Français dans la lumière, Simon, et bien c'est le porte-drapeau Samir Aït Saïd qui est qualifié pour la finale des anneaux en gymnastique.
Ouais, ce n'était pas facile hein, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, de tout de suite entrer dans cette compétition. Opération réussie pour celui qui s'était gravement blessé à Rio. Il a terminé 3e de cette première phase du concours. Les cartes sont maintenant rebattues avec la finale à venir la semaine prochaine.
Et puis dans le reste de l'actualité de ces Jeux, et bien des débuts compliqués pour les basketteuses françaises.
Eh oui, en 3 contre 3, elles ont perdu contre les États-Unis d'entrée, mais se sont rattrapées contre les Italiennes en gagnant 19-16. On va les retrouver demain, ce sera contre le Japon puis la Chine. En volley masculin, les Bleus s'inclinent 3-7-0 d'entrée contre les États-Unis, décidément pas facile. Les Français qui joueront pour se rattraper lundi contre la Tunisie. Et puis en natation, qualification pour les demi-finales pour Marie Vatel, 100 mètres papillon. Et pour Léon Marchand, place à la finale avec le 400 mètres 4 nages.
Simon, demain, c'est quoi le programme? On a forcément une idée.
Ah oui, 19 finales hein, qui vont délivrer des médailles, donc pas mal de chance pour les Français. Cyclisme sur route avec la course dames, ce sera pour Juliette Labousse. En fleuret individuel, c'était pas franchement formidable l'escrime aujourd'hui, mais Anita Blaz, Pauline Ranvier, Isaora Tibus auront leur chance. On aura aussi évidemment des sports collectifs. Les Bleus du foot qui vont essayer de revenir après leur défaite contre le Mexique, ils joueront l'Afrique du Sud. La dernière fois que la France a joué l'Afrique du Sud et le Mexique en phase de poule, c'était une Coupe du Monde 2010 qui avait mal fini. Mais ce sera différent. Et puis en basket, le match de gala, France-États-Unis, 14h demain pour ce très grand rendez-vous de basket.
Et une chose, Simon Rubin, souvenez-vous, Coupe du Monde 2019, France-États-Unis, les Français avaient battu les Américains. Alors certes, ce n'était pas le grand team USA, mais à mon avis, on peut parier que les Américains, revanchards comme ils sont, je peux vous dire qu'ils vont tout faire pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Merci, c'était le journal des Jeux de Simon Rubin. Et tiens, d'ailleurs, on va rester un petit peu dans les Jeux. On va entendre un morceau que tout le monde connaît et qu'on a entendu hier, bien sûr, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. Imagine, John Lennon, sur Europe 1. Imagine de John Lennon. Eh bien, tiens, si on faisait un rêve, qu'il fasse beau demain, la météo, tout de suite. Eh bien, j'ai bien l'impression que nous aurons droit à un ciel changeant et pluvieux, Laurent Cabrol.
Cette journée de dimanche a été pour le moins contrastée, c'est ce que l'on peut dire. Hein. Mais avec quand même pas mal d'intempéries. Et les intempéries, on les voit sur les images satellites, elles sont encore présentes dans l'ouest et vers l'est. Mais demain, elles vont se rassembler sur la moitié nord. Des régions où il pleuvra un peu plus qu'ailleurs, le nord Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Île-de-France, la Normandie, le centre et la Bourgogne. Des régions où il pleuvra un petit peu moins, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin, on peut parler d'Averse dans ces contrées. Et puis un peu d'éclaircie sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Je vais dire un peu, oui, allez, un peu d'éclaircie. Sur le sud-ouest, ce sera pas trop mal, avec un ciel bien sûr encombré, comme sur le bassin méditerranéen, où le voile sera d'actualité. Les températures maximales pour cette journée de dimanche qui nous arrive, 21 degrés à Caen, La Rochelle et Brest, 23 à Lille et Paris, 24 à Rennes, 25 à Dijon et Bordeaux, 26 à Strasbourg, 29 à Lyon, 31 à Perpignan, 33 à Marseille et 35 à Nîmes.
Alors ça c'est pour le ciel, Laurent, mais côté plage, ça donne quoi?
Oui, le temps pour demain dimanche sur les plages sera identique à celui d'aujourd'hui. Sur l'Atlantique, la partie nord entre Brest et Bordeaux, des averses de pluie, 22 à 23 degrés en bord de mer, 19 à 20 degrés dans l'eau. Entre Bordeaux et Biarritz sur la partie sud de l'Atlantique, 21 à 23 degrés sur la Grève, 20 à 22 dans l'eau pour la baignade, c'est plus agréable. Manche et mer du Nord, quelles que soient les contrées en bord de mer, vous aurez de la pluie ou des orages, mais enfin, ce ne sera pas terrible, terrible. Température en baisse aussi, 20 à 22. Dans l'eau, 27 à 19, ça a bien baissé. 15 degrés à Perros-Guirec pour donner un exemple. Enfin, sur la Méditerranée, du soleil, température 29 à 30 degrés, température de l'eau dans le golfe du Lion 20 à 22 degrés et sur la côte d'Azur et la Corse entre 25 et 26 degrés. Voilà, bonnes vacances.
Merci Laurent Cabrol, bonnes vacances.